La parole des contes avec Anne Wong.
Chers auditeurs, bonjour. Cette fois-ci, je vous propose d'aller explorer quatre versions très distinctes d'un même conte type intitulé Conte type 706, La fille aux mains coupées. Oui, c'est Arne et Thompson, des Anglais qui ont mis en place une numérotation des contes en anglais. Et Paul Delarue qui a repris la numérotation de Arne et Thompson. Et donc, il se trouve que ce conte est intitulé le conte type 706, La fille aux mains coupées. Alors, nous allons trouver dans Paul Delarue, avec le conte folklorique français, le conte qui s'intitule Marianette, version alsacienne. Et qui, elle, ne présente pas de référence ni à Dieu, ni à diable, donc c'est possible. Ainsi que dans le conte chinois, qu'on trouve dans le recueil de contes, anthologie de contes de Chine, Bambou vert, de la chinoise Blanche Xiaping Xu, édité chez Corti, cette année même, 2022. Et le conte s'intitule « La fille aux mains coupées ». Et deux autres contes donc, qui font référence à Dieu et diable. Donc, chez les frères Grimm, « La jeune fille aux mains coupées » et chez Henri Pourrat, « Les bras d'argent ». Alors, ce qui est intéressant avec les versions distinctes, c'est on retrouve des motifs différents. Donc cette jeune fille qu'on va suivre dans toute son histoire, elle a dans un cas elle a un père qui va mourir très vite. Dans un autre cas, elle a un père qui est absent. Et dans d'autres cas, c'est le père qui va vendre sa propre fille au diable. Chez Grimm, il ne le sait pas. Il pense faire un pacte avec le diable en lui vendant son pommier. Oh. Mais chez Henri Pourrat, il sait parfaitement que c'est avec le diable, car il se dit qu'il a besoin beaucoup d'argent parce qu'il aime jouer les jeux d'argent. Et alors, je préférerais vendre ma fille au diable pour avoir plein d'argent et pour pouvoir donc jouer intensément plutôt que de m'occuper de ma fille. Les filles vendues au diable auront des réparties, vont faire des cercles de craie, vont faire des signes de croix à l'eau bénite. Enfin, elles ne manquent pas d'imagination pour essayer de se protéger. Mais malgré ce, le diable aura quand même raison de cette affaire. Mais quand elles se retrouvent sans main, les braves filles, et livrées à elles-mêmes, elles ne peuvent plus ni manger, ni boire, ni se laver, ni se vêtir. Comment faire, ne serait-ce que manger? Alors l'une mangera à quatre pattes des fruits tombés au sol, une autre mangera... Alors à ce niveau-là, il y a deux motifs possibles. Elle mangera un seul fruit. Dans d'autres cas, elle grignotera les fruits et croquera dans tous, et ça va alerter le propriétaire de l'arbre fruitier. Et dans un autre cas, c'est assez joli, c'est le chien du château qui ira lui porter son repas. Et c'est parce qu'il va devenir de plus en plus maigre, alors qu'on lui donne toujours à manger, que le prince ira voir qu'est-ce qui se passe. Eh bien, je vous propose, donc, pour rentrer dans un de ces contes, la lecture de Marianette, la version alsacienne dans l'édition donc, du conte folklorique français de Paul Delarue. Il était une fois un garde forestier et sa femme, qui avaient une fille. Le garde forestier mourut encore jeune, mais sa femme était très belle de sa personne et elle avait une auberge. Et beaucoup de jeunes seigneurs venaient chez elle pour se désennuyer avec elle. Quant à sa fille, elle grandit et devint encore beaucoup plus belle que sa mère. Ça vous rappelle d'autres motifs, hein, où la fille devient plus belle et la mère devient jalouse. Et vous allez voir que le cas se répète. Les gens qui venaient préféraient, au fur et à mesure, parler à la fille plutôt qu'à la mère. Mais la fille était une enfant sage. Alors sa mère la prit secrètement en haine et songea à la faire tuer. Un beau jour, elle dit à son valet Jean : « Prends Marianette, va dans la forêt et tue-la. » Il fut effrayé. Il dit : « Mais comment pourrais-je faire cela ? Tuer Marianette ? Une fille si belle et si sage. » Alors la mère, elle dit : « Si tu le fais, je t'épouserai. » Et lui, « Si c'est ainsi, ben, je veux bien le faire. » Et elle répondit encore : « Pour preuve, tu dois me rapporter ces deux mains. » Le jour suivant, le valet dit à Marianette : « Marianette, viens avec moi dans la forêt. Nous irons chercher du bois mort. » Marianette vint avec lui. Et comme ils avançaient loin, loin dans la forêt, de plus en plus profondément, elle dit : « Je ne sais pas, Jean, tu vas si loin dans la forêt que nous ne pourrons plus en sortir et rentrer. » Il lui répondit : « Tu n'as plus besoin de t'occuper du bois mort. Je dois te tuer. Maintenant. » Elle eut grand peur, l'implora : « Oh Jean, 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 tu ne vas tout de même pas faire ça. » « Eh, c'est ta mère qui le veut ainsi. » « Ah, si c'est ma mère qui a ordonné ça, alors laisse-moi partir, je ne lui reviendrai plus sous les yeux. » « Eh oui, chère Marianette, mais en preuve, je dois rapporter tes deux mains. » « Eh ben alors, Valéjean, tranche donc mes mains, mais laisse-moi partir. » Et il lui trancha les deux mains et prit le temps de lui faire un bon pansement et la laissa partir. Elle continua son chemin, marche que marche, endurant de grandes douleurs, toujours plus loin dans la forêt. Enfin, elle vit un beau château et à côté, un beau jardin avec toutes sortes de fruits en espalier. Et elle songea d'y entrer, à la dérober pendant la nuit pour en manger. Quand il fit nuit et que tout fut calme, elle se glissa dans le jardin et mangea de ses fruits. Mais comme elle n'avait pas de main, elle dut mordre dedans. Le matin suivant, quand le jeune roi fit une promenade dans le jardin, il vit que tous les fruits étaient entamés. Alors il dit à ses serviteurs : « Une bête féroce s'est trouvée dans le jardin. Cette nuit, vous devez faire mieux attention. » Elle revint, mais ils ne la découvrirent point. Le matin suivant, quand le roi fit de nouveau sa promenade, il vit encore davantage de traces de dents. Il se mit en colère. « Cette fois-ci, je vais veiller moi-même. » autour de minuit, il entendit quelque chose. Il n'était pas très sûr et il dit « Qui va là ? Hein ? Si c'est un être humain, réponds. Si c'est une bête, je tire. » Aussitôt, il entendit tout bas des pleurs, des sanglots, et il courut dans la direction. Quand il y parvint, tenez, c'était une femme. Oh ! Il en laissa tomber son fusil et lui demanda pourquoi elle allait dans le jardin et pourquoi elle ne cueillait pas les fruits. Elle répondit « Parce qu'elle n'avait pas de main. » Il emmena avec lui la fille manger et boire. Et elle lui raconta tout. Et lui s'étonna beaucoup de sa beauté. Le matin, il entra chez ses parents et leur dit « J'ai capturé la bête cette nuit. » Mais jamais de ma vie, je n'ai vu bête aussi belle. » Et les parents répondirent, « Eh ben, montre-nous-la donc !» Et il la fit entrer. Lorsqu'ils l'aperçurent, ils s'effrayèrent de sa beauté. Et l'idée leur vint que leur fils pourrait bien la prendre en affection. Et lui-même dit « Je la prendrai pour femme. » Ils s'y opposèrent et ils dirent « Mais elle n'a pas de main, tu te lasseras d'elle. » « Oh, pour ça, je peux lui donner des servantes. » Et il se maria avec elle et ils vécurent ensemble paisiblement et les parents l'aimaient aussi. Comme ils étaient mariés depuis une année à peine, il arriva qu'il dut partir en guerre. Elle était enceinte et donna le jour à deux fils. Et on le lui fit savoir. Mais il reçut une fausse lettre qui lui annonça la naissance de deux chiens. Il répondit qu'on les laisse aller jusqu'à son retour à lui après la fin de la guerre. Alors, il en choisirait le meilleur. Mais cette lettre, elle ne la reçut pas non plus. À sa place, elle en reçut une autre. Qu'on fasse tuer les deux fils et elle, qu'on la fasse brûler. Lorsqu'elle reçut cette lettre, elle la lut et s'évanouit aussitôt. Et les parents prirent peur. Lorsqu'elle revint à elle, elle demandait ce qu'il y avait. Et elle leur donna la lettre. Ils s'effrayèrent, se mirent en colère contre leur fils, car ils aimaient bien Marie-Annette. Elle les supplia de lui laisser la vie. Elle irait dans la forêt et n'en reviendrait plus à la lumière du jour. Alors, ils lui préparèrent une double poche pour qu'elle puisse accrocher les deux enfants, l'un sur le dos et l'autre sur la poitrine. Et ils la laissèrent partir et lui donnèrent encore beaucoup d'argent. Elle alla, toujours plus loin. Enfin, elle arriva à une rivière. Alors, elle détacha ses enfants pour laver les couches et elle les saisit avec ses moignons et les rinça. Comme elle les rinçait ainsi, deux hommes, Pierre et Lazare, Ah oui, si, c'est quand même une présence un peu divine, mais très, très légère. Et dans cette version, la confusion des lettres n'est absolument pas expliquée. La substitution des lettres n'est pas du tout expliquée. Donc, elle arrive vers la rivière. De l'autre côté de la rive sont deux hommes, Pierre et Lazare. Et Pierre dit à Lazare, « Oh, la pauvre! Ne serait-ce pas bien si elle avait de nouveau ses deux mains ?» Alors ils s'approchèrent d'elle et lui demandèrent, par-delà la rivière, si elle ne voulait pas avoir de nouveau ses deux mains. Elle répondit qu'elle remercierait le Seigneur s'il pouvait en être ainsi. Et ils lui rendirent ses deux mains. Elle les remercia et dit « Maintenant, je m'en irai travailler jusqu'à ce que le sang me jaillisse des doigts. » Mais ils lui dirent « Mais non, c'est ici, en cet endroit, que vous devez rester. Et nous vous construirons une chaumière, et c'est ici que vous retrouverez votre bonheur. » Elle répondit « Je veux donc rester ici. » La guerre aussi avait pris fin maintenant et son mari en revint sain et sauf. Mais lorsqu'il entra dans la cour, aucun serviteur ne le salua. Et quand il arriva au château, son père et sa mère étaient assis là et lui montrèrent des visages fermés. Il demanda pourquoi. Ils répondirent « Qui pourrait te saluer alors que tu as fait tuer ta femme et tes enfants innocents ?» Entendant ces mots, il s'évanouit. Quand il revint à lui, il demanda si elle n'était plus en vie. Ils répondirent qu'ils ne le savaient pas. Qu'elle avait dit qu'elle irait dans la forêt et qu'elle n'en reviendrait plus à la lumière du jour. Il s'évanouit encore une fois. Ensuite, ses parents lui montrèrent sa lettre. Non, c'est lui qui montra sa lettre. Mais et ils comprirent que toutes les lettres avaient été falsifiées. Maintenant, il envoya des lettres dans toutes les terres pour retrouver Marie-Annette. Mais il n'apprit rien d'elle et il en éprouva un grand, grand chagrin. Il arriva un jour qu'il s'en alla à la chasse avec ses serviteurs. Il se sépara un peu des autres, s'éloigna du groupe et arriva seul à une chaumière. Marie-Annette était à la fenêtre. Quand il la vit, il songea qu'il pourrait croire que c'était là sa femme, si elle n'avait pas eu ses mains. Il se trouvait aussi un petit banc devant la chaumière. Il demanda s'il lui serait permis de s'y reposer. Elle le lui permit. Mais elle avait peur. Au bout d'un moment qu'il était couché sur le banc, il laissa glisser un bras à terre. Elle dit à son fils, « Ah non, ce sont ses fils. » Je ne comprends plus. Elle dit à Pierre, « Va et relève le bras de ton père pour qu'il ne se fatigue pas tant. » « Mais tu nous dis que notre père est au ciel. » Elle répondit, « Oui, mon enfant, mais celui-ci est ton père sur terre. » Et il laissa encore glisser la jambe. Alors elle parla à la même manière à son autre fils, et l'interrogea pareillement. Il ne peut se retenir, et le mari ne put se retenir plus longtemps. Il se leva promptement et lui demanda si elle était vraiment Marie-Annette. Il dit oui. Alors il la serra sur son cœur, il pleura très fort, et elle aussi, et il lui demandait comment elle avait retrouvé ses mains. Et elle le lui dit. Et lui lui raconta que tout avait été faux dans les lettres. Il monta à cheval et retourna vers ses serviteurs pour qu'ils aillent au château chercher une voiture. À son retour, tout le château et toute la ville étaient en liesse. Ils célébrèrent leurs noces à nouveau, une seconde fois, et y invitèrent aussi la mère de Marianette. Elle se réjouit d'être invitée aux noces du roi et s'y rendit, puisqu'elle était persuadée que Marianette était morte. Quand ils eurent mangé, le roi dit « Maintenant que chaque convié prononce un jugement sur une femme capable de faire trancher les mains à sa fille. » Et chacun dit son jugement. Puis vint le tour de la mère de Marianette. Et elle, elle dit « Oh, tout ce qui vient d'être dit n'est pas suffisant. Une telle femme doit être à toute heure pincée avec des tenailles rougies au feu et fustigée avec des verges ardentes. » Alors le roi dit « Eh bien voilà, maintenant tu as prononcé ton propre jugement. » Et dès cette heure, elle fut pincée avec des tenailles rougies au feu et fustigée avec des verges ardentes. Voilà comment ce conte est terminé. Chers auditeurs, chères auditrices, je vous propose de gagner des places pour le samedi 28 mai ou le dimanche 29 mai aux séances de 10h30 ou de 17h30 pour une balade médiévale contée à Saint-Martin-de-Londres ou au Mattel dans le cadre de Festa Trail en répondant à cette question. Dans la version que vous venez d'entendre, Marianette, qu'a-t-elle cherché à manger quand elle avait les mains coupées? Réponse à adresser au mail de la radio, direction @radiofmplus.org ou sur les différents réseaux sociaux Facebook, Amstramgram. Chers auditeurs, chères auditrices, à dimanche prochain, si vous le voulez bien, avec d'autres versions de ce même conte, de cette même histoire. La jeune fille aux mains coupées. À très bientôt donc! Thank you.